Bien, bonjour à tous et à toutes, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se saluer, puis on n'a pas eu l'occasion non plus de voir toute l'Église au long de la semaine, mais en tout cas, en mon nom, et puis aussi au nom de mon épouse certainement, et puis peut-être même au nom de l'Église d'Istres, on vous remercie pour l'accueil, c'était vraiment très chaleureux, et puis on a été vraiment étonnés de l'accueil, même dans le regard de Michel. Voilà, c'est quelque chose que, en tout cas, je pourrais témoigner de votre accueil, de cet amour que vous manifestez, et ça, c'est très précieux pour nous. S'il y a bien une chose que nous retiendrons, je crois, c'est ça, c'est l'accueil, et puis voilà, l'amour, le temps partagé ensemble avec Francine et Jean-Marc aussi. Et, bon, bref, voilà. J'arrête là ? Non. Vous vous attendiez à autre chose, bien sûr. Et puis, tout au long de la semaine, je partageais ça à Jean-Marc. Il y a une espèce d'idée qui est revenue en boucle comme ça. Et je me disais, c'est pas possible. On sort pas du sujet, même si on a parlé de tout un tas de choses. Et c'était vraiment très riche et peut-être même dur à digérer. C'était aussi riche que tout ce que vous nous avez apporté en termes de nourriture. Et du coup, voilà, il va falloir que j'aille faire du footing. Merci pour tout. Merci pour tout. Peut-être qu'on peut prier ensemble. J'aime bien prier avant de porter le message. Ouais, merci Seigneur de ce que tu es bon et... de ce que tu es bon en tout temps, de ce que tu fais toutes choses parfaitement. Et je te prie, Seigneur, au travers de ce que je peux apporter ce matin, que je sois, Seigneur, ta bouche, que je sois tes lèvres, que je puisse non pas apporter un message qui puisse intellectuellement interpeller ou juste émotionnellement peut-être, mais une parole de vérité qui puisse eh bien, embraser les cœurs et invité au changement, Seigneur, invité à une transformation que tu désires. Merci, Saint-Esprit, d'être à l'œuvre en moi, au travers de moi et dans cette assemblée qui nous reçoit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous propose une lecture pour commencer dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Du verset 1 à 13, je ne sais pas si vous affichez les versets là ou si vous êtes tous équipés. Ouais, super. Alors, moi je lis dans la Louis II, mais peu importe. Et donc, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Ce que nous pouvons constater dans ce premier verset de ce chapitre de Luc, et ce qui moi me frappe, c'est la pédagogie de Jésus-Christ. Et je crois que Jésus a enseigné ses disciples premièrement par l'exemple qu'il était pour eux. Ils ont été au quotidien avec lui, ils ont marché avec lui, et ce qu'ils ont pu voir de la personne de Jésus-Christ a été une influence dans ce monde. Vous savez que c'est devenu un métier aujourd'hui, les influenceurs. La jeune génération qui est là connaît bien. Il y a des influenceurs. Moi, je me considère pas vieux, mais j'ai du mal avec ce principe parce que je comprends pas le principe dans le travail. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Jésus était l'influenceur au-dessus de tous les influenceurs, pour moi. Et donc, c'est sa manière de prier en un jour, en un certain lieu. Et on sait au travers des évangiles que Jésus priait régulièrement et qu'il se mettait à part. Et ce disciple-là vient et il est interpellé. Il a envie, lui aussi. Il a envie parce qu'il a vu Jésus et il lui dit « Enseigne-nous à prier ». Ça agit comme une étincelle chez ce disciple, il veut apprendre du maître. La communion que Jésus avait avec le Père suscite un intérêt profond à ce moment-là. Ce rapport direct, cette conversation intime, ce cœur à cœur que Jésus vivait, ce disciple veut le vivre aussi. Et je me souviens, et vous avez certainement vécu ça, quand vous rencontrez dans la rue ou sur les quais ou au bord de la plage, pour ceux qui... Voilà, c'est plus propice à ce message, puisqu'on est à Quévin, au bord de la plage, on a pu visiter voilà, des coins magnifiques. Et si vous voyez, pour un célibataire, deux amoureux se tenir par la main, se regarder tendrement, et puis voilà, on voit la proximité et ça donne envie. Quel célibataire n'a pas envie, vous voyez ? De vivre aussi cette relation parfois. Il y a des choses comme ça qui nous donnent envie, quand elles sont belles, bien sûr, et on a envie, et c'est logique. Et c'est un peu ce que Jésus fait. Donc, de cette même manière, Jésus a montré à ses disciples comment exercer l'amour, comment obéir jusqu'à la mort, comment faire la volonté du Père, comment comprendre les Écritures également. Sa vie entière est focalisé sur le Père. La vie entière de Jésus-Christ est focalisée sur le Père. Et sa vie entière a été le modèle à suivre. Un autre exemple qui me vient, c'est celui de l'apôtre Paul. Il est pour moi l'apôtre de l'exemple, et on en a parlé avec Jean-Marc, où tu as fait une allusion, je crois, hier soir. Et l'apôtre Paul est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Et il est à l'origine aussi de beaucoup d'églises en Asie. Mais bien que n'ayant pas connu Jésus physiquement, on lit régulièrement dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens qu'il avait reçu par son esprit ce qu'il enseignait. Waouh ! Et Paul avait adopté cette méthode de l'exemple également. Et il écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 15, « Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Voilà ce que Paul déclare. Je me souviens avoir discuté il y a quelque temps avec un prêtre, et il me disait que pour lui, ce type d'exemple dans les épîtres de Paul et les écrits de Paul lui faisait considérer que Paul ou les écrits de Paul étaient inférieurs aux évangiles. Vous voyez, il mettait les évangiles là, et puisque Paul se considérait un peu comme le centre de ses écrits, eh bien, voilà, il le mettait en dessous. Et j'ai dit, waouh, je vois pas ça comme ça. Pour moi, Paul est quelqu'un qui a centré sa vie sur Christ. Et c'est vrai que si on s'arrête à ce verset, ça peut être interpellant. Mais quelques versets plus loin, ou quelques chapitres plus loin plutôt, au chapitre 11, Paul dit cette même phrase, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », rajoute-t-il. Soyons les imitateurs. Peut-être vous avez des modèles dans l'Église. Il y a Francine, il y a Jean-Marc, il y a Michel et son épouse. Et voilà, vous avez chacun vos modèles. Et puis, ce n'est pas forcément négatif d'avoir des modèles, mais le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Revenons à notre verset de départ et voyons une petite phrase qui peut parfois apparaître comme ça et puis on n'y prend pas garde. C'est le disciple de Jésus qui voulait apprendre à prier comme Jean l'a enseigné. Nous remarquons que Jésus ne surenchérit pas sur ce détail de cette demande de ce disciple. sa manière de répondre nous inspire également. Et puis, parfois, quand le désir d'être comme l'autre, par conformisme ou juste par convoitise, quand ça surgit chez nous ou chez l'autre, eh bien, Jésus réoriente toujours vers le Père. On sait que Jean le Baptiste avait une certaine influence, il avait démarré son ministère en amont du ministère de Jésus. On sait aussi que Jean baptisait, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean le Baptiste. Il baptisait et autour de lui, il y avait des disciples. Une partie de ses disciples a rejoint le Christ, évidemment parce qu'il disait lui-même « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Donc la vie entière de Jean a été focalisée, elle aussi, sur Jésus-Christ. Mais nous savons aussi que les disciples de Jean, on voit ça dans Luc au chapitre 5, verset 33, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnaient et fréquemment et faisaient des prières, tandis que ceux de Jésus mangeaient et buvaient. Et il y a une espèce de, voyez, de compétition là, qui s'installe, et puis les gens se posent des questions, de savoir, moi je suis disciple de Jean, et toi tu es disciple de Jésus, et alors moi je fais ça, et toi tu fais ça. Pour certains, Jean était un Essénien. Je crois qu'on n'a pas vraiment la preuve de ça, mais si c'est une vérité, les Esséniens priaient 7 fois par jour. Ils jeûnaient fréquemment. Et le baptême était un rite de purification aussi. Et on voit dans Jean, au chapitre 3, aussi qu'il s'élevait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant à la purification. Et il y a, voyez, il y avait une tension entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus. Et probablement que le disciple même qui pose la question à Jésus ce jour-là, en lui disant, mais enseigne-nous à prier comme Jean le faisait avec ses disciples. Peut-être était-il lui-même un de ses disciples qui avait rejoint Jésus. Jean avait préparé le chemin et il avait lui-même des disciples. Ok. Mais Jean a continué son ministère de son côté, malgré tout. Et on voit qu'il baptisait encore après à Hénon, près de Salim. Cependant, il encourageait toujours ses disciples à reconnaître Jésus comme le Messie. Et si Jean était à l'origine ou était dans le mouvement des Esséniens, eh bien, voilà, il y a, comment dire, un grand écart qui s'opère là, peut-être pas si grand que ça, mais en tout cas, le modèle reste et doit demeurer Jésus-Christ. Nous ne savons pas vraiment ce que Jean enseignait à ses disciples au sujet de la prière, même si, voilà. Mais ce qui est important, c'est de ne pas imiter. Et si on prend le passage dans Matthieu 6, qui est le passage parallèle de Luc 11, dans ce passage de Matthieu 6, Jésus invite à ne pas imiter les hypocrites ou les païens. Et il invite ses disciples aussi à ne pas chercher à leur ressembler. Et je crois que c'est important de lire les deux passages concernant la prière, et à la fois Luc et Matthieu. Christ n'était pas un maître comme les autres. Aussi charismatique que soit Jean le Baptiste, Christ n'est pas un maître comme les autres. Il est le maître. Et le but de l'enseignement de Jésus n'est pas que nous ressemblions à telle ou telle personne influente. Le but de l'enseignement sur la prière n'est pas non plus que nous devenions comme Moïse ou Jean le Baptiste ou notre personnage biblique préféré. Mais le but de Christ, c'est que nous lui ressemblions. Parce qu'il est le Fils et qu'en lui, nous pouvons être fils à notre tour et filles. Nous sommes, grâce au Fils, filles et fils de Dieu. Je vous propose un autre passage pour illustrer mon propos. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'à 20, et je vais vous faire rapidement la lecture pour ne pas perdre trop de temps. Et donc, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse. Il leur dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, « Je veux mettre sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Je veux mettre sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Alors tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse point de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à y mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Et malgré tous ces avertissements et cette liste, eh bien, quand on lit l'histoire qui va succéder, on se rend compte que Israël n'a pas obéi. Et les rois choisis étaient des rois, en tout cas pour Saül, était un roi charismatique, un roi guerrier, un roi fort. Et je ne vois pas dans ce listing beaucoup de rapports entre Saül et cette liste à respecter. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle René Girard qui parle du désir mimétique. Peut-être vous connaissez ça. Et cet auteur explique que ce désir mimétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir ce que l'autre a. Et pour lui, c'est l'origine de la violence dans ce monde. Avoir ce que l'autre a, la convoitise. Je veux avoir ce que l'autre a. Mon épouse a vu que la sœur qui était là, avait la même écharpe. Alors bon, elles ne vont pas se battre normalement, elles ont la même, ça va. Mais moi, j'aimerais bien avoir la même cravate que Jean-Marc. Et peut-être je vais lui faire un croche-patte à la fin. Merci beaucoup. Le désir mimétique. Là où je diffère dans le propos de René Girard, c'est que pour lui, c'est l'origine de la violence. Et que pour moi, l'origine de la violence est bien en amont de ça. C'est le péché. C'est le péché qui a entaché l'homme. Nous voulons quand même ce que l'autre a. Et dès l'enfance, peut-être ce petit bout qui est là au deuxième rang, ses parents peuvent constater que quand il joue avec d'autres enfants, il aimerait bien avoir les jouets. Nous, on a un enfant unique, mais quand il est avec d'autres, hop, du coup, il n'a plus aucun intérêt pour ses propres jouets. Et pourtant, il en a une tonne, comme tous les enfants uniques. Hein ? Et ce que l'on peut constater chez l'enfant est vrai aussi chez l'adulte, croyez-moi. Nous voulons ce que l'autre a. Et Dieu voulait un roi différent pour un peuple différent avec un Dieu différent. Il était le Dieu tout autre. Et pourtant, il nous appelle, à être un sacerdoce royal, nous dit Pierre, en lui. Depuis l'origine de la création du monde, Dieu voulait une création qui lui ressemble. Nous pouvons lire en Genèse 1, chapitre 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. etc. Et puis en Il le répète au chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mais il y a une conséquence à la chute. Une des conséquences de la chute, c'est que l'image de Dieu en nous a été déformée. Et au verset 3 du chapitre 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. On reprend les mêmes termes. Mais ce n'est plus de Dieu dont il s'agit, c'est d'Adam. Et il lui donna le nom de Seth. Et nous voilà avec une création qui, au départ, était à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'était le plan initial du Père. Et cependant, depuis Adam, toute la création a suivi, et dont nous sommes au nombre, et dont nous sommes tous issus, ici même, ressemble à Adam, et non plus à Dieu. Et cette ressemblance est à nouveau possible en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, je travaille aujourd'hui, c'est vrai que je suis militaire et je suis fusilier commando de l'air. Alors c'est un nom qui peut impressionner, hein, mais rassurez-vous, il n'y a rien d'impressionnant chez moi. j'ai peur des araignées, voilà. Je suis pas vraiment ça. Je calque pas trop à l'image que vous pourriez vous faire d'un commando, mais peu importe. Et aujourd'hui, je travaille dans un secrétariat. Et vous savez, quand vous faites des photocopies dans une photocopieuse, si vous photocopiez l'original, jusque-là, tout va bien. Mais si vous prenez la copie de la copie pour refaire une copie et encore une copie et après toujours dans le même schéma, à la fin, vous ne pouvez plus rien lire, n'est-ce pas ? Je vois des gens qui font ça. Il y a d'autres secrétaires dans l'Assemblée. Ou des gens qui font un peu de paille comme moi. La qualité diminue à force de copier. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils puisse le premier-né entre plusieurs frères. Voilà ce que Paul dit en Romains 8. Que c'est bon de pouvoir considérer ces choses. Christ devient le nouvel Adam pour nous et nous pouvons lui ressembler. Et en lui, nous ressemblons à cette image que Dieu avait choisie de toute éternité. J'ai pour habitude de dire que Dieu a un plan A et qu'il n'a pas de plan B. C'est mon point de vue, je vous le partage. Dieu n'a pas de plan B. De toute éternité, il a un plan A et il nous fait rentrer dans ce plan-là. Nous, parfois, on zigzague, c'est vrai. On sort des sentiers parce que nous sommes humains. Mais Dieu, de toute éternité, veut un peuple qui lui ressemble et il nous fait entrer dans ce plan A. Alléluia. Alors Jésus dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et cette prière nous permet d'accéder, premièrement, au Père. En disant Père, nous considérons que nous sommes fils et filles en Jésus-Christ. Il est l'origine de tout, l'alpha et l'oméga, celui à qui nous devons ressembler, à la ressemblance de qui nous avons été créés. Et voilà pourquoi Jésus ne peut pas surenchérir sur la demande de ce disciple. Il n'enseigne pas à prier comme Jean-Baptiste ou qui que ce soit, parce que sa vie entière est focalisée, comme je vous l'ai dit, et il focalise sur le Père. Si Adam engendre un fils à sa ressemblance, Dieu veut à nouveau engendrer des fils et des filles à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu sur terre, les ambassadeurs de Dieu. Et là où nous sommes, son nom doit être sanctifié. Son règne vient et sa volonté doit s'accomplir. Ce que nous ne voyons pas dans l'évangile de Luc, nous le voyons peut-être dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « sur la terre comme au ciel ». On en a parlé ce matin avec Jean-Marc, c'est pour ça que je souriais quand il me parlait de ça. « Sur la terre comme au ciel et non l'inverse ». Jésus enseigne encore et encore à désirer, à rechercher de toutes nos forces cette réalité céleste ici-bas. Car c'est Dieu qui s'est incarné et qui est descendu dans notre réalité, et non l'inverse, n'est-ce pas ? C'est aussi le Seigneur qui reviendra chercher son Église. Et c'est encore cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel que nous attendons. Et toutes ces choses nous invitent, c'est vrai, à fixer notre attention vers ce qui vient. Ce qui vient. C'est au-delà de ce que nos yeux peuvent voir au quotidien, du frère, de la sœur qui est devant, à côté de nous, si beau soit-il. Et il y a plus. Il y a ce qui est dans le ciel. Je peux pas résister à l'envie de vous raconter un tout petit témoignage. Il y a quelques années de ça, nous étions à Annecy, au bord du lac d'Annecy. Et peut-être si vous y avez été, vous pouvez vous imaginer ce grand lac entouré de montagnes. C'est magnifique. Bon, même si Kevin, c'est très beau, mais Annecy, c'est vraiment beau. Et nous qui venions des Bouches-du-Rhône, on était un peu waouh, on se disait. Ça change vraiment le décor. Et puis, on vivait une situation difficile à ce moment-là. Et puis, on était là, au bord de ce lac. Et moi, je regardais ce beau lac d'huile. Voilà, il n'y avait pas de vent, ça ne bougeait pas. Et on pouvait voir tous les alentours, les montagnes, les arbres, les fleurs, tout ça au milieu du lac. Vous voyez ? Le reflet de ce qui se passait était dans le lac. Voilà, et l'image était la même. On voyait les couleurs, on voyait les formes, tout était beau. Mais ça n'était que le reflet de la réalité. Et finalement, ce qui était en bas devenait en haut, et ce qui était à gauche était à droite, etc., comme dans un miroir. Et le reflet de la réalité n'est que le reflet, et il est forcément moins beau. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, mais lève la tête. Lève la tête. C'est tellement plus beau la réalité que le reflet. C'est tellement plus beau les montagnes et le ciel et les fleurs et je ne sais pas moi, même les abeilles. Tout était beau, mais il faut parfois savoir relever la nuque. Et le poids des souffrances et de la vie et tout ça nous font parfois baisser la tête et nous ne percevons plus la réalité. Nous voyons l'image de l'image de l'image de l'image et la photocopie de la photocopie. Et aujourd'hui encore, vous savez, vous avez peut-être vu ça à la télé, maintenant on fait du tourisme spatial. On fait du tourisme spatial. L'homme cherche à s'élever, là, maintenant qu'on a bien pollué la planète. Je ne suis pas un écolo à fond pour les verts, mais c'est une réalité quand même. Voilà. On a bien pollué la planète, alors on essaye de s'en échapper. Et bien sûr, il n'y a que les riches qui pourront aller dans l'espace. Les salaires moyens est faible, comme le mien. Non, j'ai aucune chance de faire du tourisme spatial. Mais c'est une réalité. Et en parlant avec Michel, on partageait ça aussi. Quelque part, l'homme cherche toujours à s'élever. D'une manière ou d'une autre, on cherche à s'élever. Certains se droguent. Certains font du tourisme spatial, d'autres élèvent des tours de plus en plus hautes. C'est la compétition. Nous avons été à Dubaï, nous sommes montés dans la Burj Khalifa. On a pu, pas tout en haut, mais on a pu dire c'est immense, c'est incroyable. Et je crois que c'est en Chine ou au Japon qui sont en train de construire plus grand maintenant. Et jusqu'où ça va aller hein, on reconstruit Babel, peut-être. Mais finalement, est-ce que l'homme pécheur, le fils d'Adam, en s'élevant, ne va pas, comme il a pollué la terre, polluer avec son péché tout ce qu'il touche ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que de s'élever comme ça et d'aller contaminer tout ce qui est céleste ? Certainement pas. Dieu veut faire descendre sa gloire sur nous. Il veut faire descendre sa grâce sur chacun de nous. Il veut faire descendre son amour sur nous. Et oui, nous contemplons, et oui, nous élevons nos yeux vers le ciel, mais nous sommes dans l'attente, désespérée, j'ai envie de dire, même si c'est une espérance vivante et réelle. Mais nous sommes dans cette attente qui doit brûler dans nos cœurs de Jésus et de toutes les grâces qui l'accompagnent, de son salut, de ses promesses, de ses bénédictions en nombre. Oui, je m'attends à Dieu. Et oui, je veux lui ressembler. Et oui, je crois que c'est par son Saint-Esprit qu'il me transforme et non par mes propres forces et non en copiant les modèles de gauche et de droite. Mais je crois que le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles, comme dans ce chapitre aux Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 5, je crois. Il dit, voici toutes choses nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ et par l'action de son Saint-Esprit. J'ai combien de temps encore? 3 à 5 minutes. Yes. Ben, ça tombe bien parce que j'ai bientôt fini, donc il n'y a pas de souci. Je suis interpellé parce que dans la conversation entre Jésus et Nicodème, et tout le monde connaît ce passage, si je vous dis Jean 3,16, je suis sûr que la moitié ou les trois quarts de l'assemblée vont me le répéter par cœur. Mais Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour ceux qui ont étudié le grec, là j'aurai moins de monde, c'est certain, tellement c'est rébarbatif, mais... mais l'évangile de Jean est truffé de mots qui peuvent en dire d'autres. Et de nouveau veut aussi dire d'en haut. Et quand on lit, relit ce passage avec cette vérité-là, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette réalité céleste doit nous faire renaître et refaire naître toutes les parties de nos vies. Hein, on a parlé de globalité cette semaine, mais dans la globalité, nous sommes parfois bien séparés, morcelés, etc. Et j'ai un pasteur qui disait que le dernier à se convertir chez nous, c'est le portefeuille. Vous voyez comme quoi on peut être morcelé. Hein. Et il nous faut renaître et renaître et renaître encore, sans chercher d'autre exemple que le top modèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le top modèle. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est vrai. Et ressembler à Christ, c'est ce qu'il nous appelle à faire. Ressembler à Christ et non à tel frère ou telle sœur en Jésus-Christ. Même si Jean-Marc et Francine sont vraiment très beaux. Et c'est Francine qui nous disait ça cette semaine. Il faut accepter d'être unique. J'ai aimé cette parole. Accepter d'être unique. Combien c'est bon. Accepter d'être unique. Je retiendrai ça, tu vois. Une parole pastorale. Merci, Francine. Ressembler à Christ et non à un modèle d'église. Alors là, bon, ça va être difficile pour nous de ne pas essayer de calquer ce qui se vit ici, mais on va repartir avec des pistes et essayer de ne pas être la copie de la copie de la copie, mais... Donc, ce passage-là il s'adresse plus à moi qu'à vous, parce que vous êtes déjà, waouh, une belle copie de Christ, en tout cas, ensemble. Et je disais aussi cette semaine que j'étais un grand fan des Inconnus. Vous connaissez ces comiques-là, hein. Ils avaient fait un film qui s'appelait Les Trois Frères, et vers la fin du film, là... Les trois frères passent au tribunal et ça se passe pas très bien, tatata. Et puis il y en a un qui cite un auteur qui est Timothée Gustave et il dit qu'il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Et il change les paroles de Timothée Gustave, ça fait rire. Bon, si on connaît pas l'auteur, c'est moins drôle, mais quand on connaît l'auteur, ça fait vraiment rigoler. Mais au final. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? est-ce qu'il ne faut pas cultiver la différence et non l'indifférence? Timothée Gustave disait l'inverse, et certainement lié à son histoire et tout ça, mais cultiver l'indifférence, mais je n'ai pas envie d'être indifférent à ce qui m'entoure, ni aux frères, ni à la sœur, et en tant que chrétien, je ne crois pas que ce soit une bonne démarche. Mais par contre, de cultiver la différence, oui, et en rapport avec ce que disait Francine, oui, il faut accepter d'être unique et d'être différent. Et dans cette assemblée, je vois des visages différents, avec des origines différentes. Et waouh, je me dis, c'est ça, l'Église de Christ, c'est beau. Et je vous encourage, au travers de ce message, à cultiver ça, cette différence, mais sur le modèle de Jésus-Christ. Sur le modèle de Jésus-Christ. Ressembler à Christ, c'est ne pas s'attacher aux modes successives, et même dans l'Église, il y a des modes. Ressembler à Christ, c'est ne pas nous conformer au siècle présent. Et l'ambition première, la volonté ultime, je le rappelle, de Dieu, c'est que nous lui ressemblions. Et je finirai comme ça. Toutes nos ambitions sont imparfaites et minimalistes. Jésus est le modèle parfait. Tous les projets que nous pouvons ambitionner, je ne sais pas si ça se dit, cherchant à calquer une chose dans ce monde, est forcément en deçà du projet de Dieu. Tout ce que vous voudriez calquer dans ce monde est en deçà du projet de Dieu pour vos vies. Parce que Jésus-Christ est le modèle parfait. Merci Seigneur. Est-ce que je peux reprier? Comme ça, je gratte un peu sur les minutes. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble? T'as vu cette autorité que j'ai? J'ai fait lever toute ton assemblée. Hein. Ouais, merci Seigneur encore pour l'accueil que nous avons eu, Leïla et moi, toute cette semaine et la grâce que nous avons eue d'être ici et de partager ces temps à la fois avec Francine et Jean-Marc, avec Michel et son épouse, mais avec le reste de l'Église et ces échanges, cette interaction cette fraternité qui est naissante, ce pont qui est en train de se créer entre les Bouches-du-Rhône et la Bretagne. Eh bien, je te dis merci Jésus de ton œuvre. On est émerveillé de ce que tu es capable de faire, émerveillé de ce que tu veux faire et des prémices que tu nous montres. Seigneur, et on veut s'attendre à toi pleinement, nous levons nos yeux vers toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous ne voulons que toi comme roi, que toi comme modèle, que toi comme seigneur, que toi comme Dieu. C'est toi, Jésus. C'est toi, Père, c'est toi, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, sanctifié. Amen.